Voilà, bonjour à chacun. Ça fait plaisir de voir une église remplie. Ça montre que l'évangile porte des fruits, se propage. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Alors ce matin, je vais prendre un texte dans l'évangile de Matthieu. Alors Matthieu, c'est pas parce que Matthieu a parlé tout à l'heure, mais voilà. J'ai choisi Matthieu parce que je viens de publier un commentaire sur l'évangile de Matthieu. Voilà. Vous trouverez un nombre de copies à la sortie si vous voulez en acquérir un. Si jamais vous écrivez des chèques, ne mettez pas pour qui, vous laissez simplement en blanc. Ou alors vous pouvez écrire mon nom et vous rajoutez 20 euros. Parce que moi, je dois payer en Suisse, je dois payer 20 euros pour encaisser les chèques français. Donc, laissez simplement en blanc et puis ça va comme ça. Alors, l'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile à avoir été écrit. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chaque évangéliste présente les choses de son point de vue et aussi en fonction de l'auditoire auquel il s'adresse. Bien sûr qu'entre Matthieu, Marc et Luc, surtout, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est une des grandes questions, comment expliquer ces similitudes. Mais ce matin, on va surtout se concentrer sur l'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile à avoir été écrit. Et Matthieu écrit son évangile pour les Juifs. Parce que vous savez que la première église a été composé essentiellement de Juifs qui se sont convertis. Après, rapidement, l'Évangile s'est répandu dans d'autres régions de l'Empire, en particulier grâce au ministère de l'apôtre Paul, mais pas uniquement. Alors, Matthieu, c'est un péager, un collecteur de taxes, et une des caractéristiques de Matthieu, c'est qu'il aime organiser les choses. Quand vous récoltez de l'argent, je ne sais pas comment vous faites ici, mais au moment où on a beaucoup d'argent qui vient, on commence à empiler les pièces de monnaie les unes sur les autres, les mêmes pièces, etc., pour pouvoir les compter après. Et vous êtes assez méticuleux au niveau de l'organisation. Et Matthieu, son évangile porte les traces de quelqu'un qui est méticuleux, qui organise les choses. C'est par exemple le cas tout de suite, tout au début, quand on a la généalogie de Jésus-Christ, et Matthieu commence à donner cette généalogie en partant de Abraham jusqu'à Jésus, et il a 3 périodes qu'il décrit, 14 générations, 14 générations, 14 générations. Alors, il y avait plus que 14 générations chaque fois, puisqu'entre Abraham et David, il y a 1000 ans, de David à la déportation, il y a 400 ans, et puis de la déportation à Jésus il y a 600 ans. Donc il a fait un certain choix. Alors on ne va pas entrer maintenant dans le détail de ce que Matthieu a fait pour sa généalogie, mais ça nous montre que dès le départ, qu'il a ce souci d'organiser les choses. Et puis, d'ailleurs, quand il est question d'argent, Matthieu, en général, est plus précis que Marc et Luc. Quand il dit, par exemple, quand Jésus est confronté à une question sur le fait de payer ou non l'impôt à César, Jésus leur dit « Amenez-moi un denier ». Et puis il dit « Mais ce denier, il porte l'effigie de qui ? De César, rendez à César ce qui est à César. » Mais Matthieu, il précise, il dit « Apportez la monnaie, un denier avec lequel on paye l'impôt ». Donc il est juste un tout petit peu plus précis sur ces questions d'argent. Je le dis parce que finalement, quand on parle de l'inspiration, de l'œuvre de Dieu nous guide dans ce que nous disons et faisons, mais il utilise aussi notre personnalité, notre sensibilité. Et c'est comme ça qu'on peut être un témoin. La diversité des témoins est importante, parce qu'on est... le monde est différent. Et puis, Matthieu, donc, il écrit pour des Juifs, et une des choses sur laquelle il met l'accent, c'est le fait de c'est la royauté de Jésus-Christ. Jésus est le Messie attendu depuis des siècles et il va nous présenter la royauté de Jésus et les différents aspects de la royauté de Jésus. Comment Jésus est roi, mais un roi bien différent des rois qui ont régné avant lui, au niveau de ce comportement, au niveau de ses exigences, etc. C'est pour ça que mon commentaire, je l'ai intitulé « Matthieu, l'évangile royal ». Et puis, devant, sur la couverture, vous voyez bien, il y a un ciel bleu, la nuit, avec une étoile. Alors, c'est en lien, bien sûr, avec l'étoile de Noël. Dieu a fait présenter une étoile qui se déplace dans le ciel pour guider des mages qui viennent d'Orient, peut-être des rois mages, jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem. Et bon, voilà, il ne faut pas que je m'arrête trop longtemps là-dessus, mais c'était juste un petit peu en guise d'introduction. Et puis Matthieu, il a le souci, puisqu'il écrit à des Juifs, de montrer comment l'Ancien Testament, à quelque part, annonce la venue de Jésus. Et dans l'introduction, dans les quatre premiers chapitres, à plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a un événement qui est rapporté, il dit « Ceci arriva afin d'accomplir la parole du prophète ». Marie qui est enceinte du Saint-Esprit, eh ben oui, c'est pas étonnant, hein, c'est un événement unique, mais qui a été annoncé que la jeune fille enfanterait alors qu'elle est enceinte, alors qu'elle est vierge, je veux dire. Donc, Matthieu met beaucoup d'accent sur les prophéties qui sont accomplies. Marc et Luc, qui s'adressent à un public qui connaît beaucoup moins bien l'Ancien Testament, citent beaucoup moins l'Ancien Testament. Parce que quand vous essayez de lire les différentes références à l'Ancien Testament dans Matthieu, parfois c'est clair, puis parfois c'est assez coriace. Vous dites, mais comment, quel est le lien que Matthieu voit ici avec l'Ancien Testament? Mais il est clair. Creusez simplement un tout petit peu plus. Il est là. Lisez l'Ancien Testament. Et quand on connaît la mentalité et la pensée des Juifs, parfois on comprend mieux ces références. Et puis Matthieu, un autre point sur lequel il souligne, c'est les controverses. Les controverses avec les Juifs. Parce que tout le temps, les Juifs viennent au niveau de la loi, du sabbat, de la nourriture, etc. Donc Matthieu nous présente de nombreuses controverses que Jésus a eues avec les pharisiens, les sadducéens, etc. Luc et Marc en présentent beaucoup moins. Bon, jusqu'à présent, vous me dites, je n'ai pas trop envie de lire l'évangile de Matthieu, parce que c'est compliqué. Mieux vaut se pencher sur Marc, sur Luc et sur Jean. Mais une des choses que Matthieu a, c'est vrai qu'il est sensible aussi, c'est que non seulement Jésus a été annoncé, mais Jésus est rejeté. Il est rejeté par son peuple. Le Messie annoncé est rejeté par son peuple. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est troublant. Qui est troublant quand vous savez que des gens ont entendu la parole de Dieu pendant des générations et que ces gens, au lieu d'être ouverts, sont résistants, voire sont opposés à cela. Et Matthieu, il a écrit, il a organisé son évangile autour de cinq discours de Jésus. Les discours tiennent une place très importante dans Matthieu, beaucoup plus que dans Marc ou dans Luc ou Jean. Cinq discours. Alors, premier discours, c'est le sermon sur la montagne. Et certains disent, ah, ça vaut la peine de lire l'évangile de Matthieu uniquement pour le sermon sur la montagne. Alors c'est bien, c'est le premier discours, c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne où Jésus va se situer par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament. Mais attention, Jésus ne s'oppose pas à l'Ancien Testament. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Et on pourrait croire que Jésus s'oppose à l'Ancien Testament, et certains chrétiens lisent le sermon sur la montagne avec ce regard, en disant, ben voilà, il y avait l'Ancien Testament, mais maintenant c'est Jésus, donc on peut oublier l'Ancien Testament, et puis on reste simplement avec l'enseignement de Jésus. Non, on ne peut pas. Parce que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit bien, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir, pour donner son plein sens, pour montrer jusqu'où cet Ancien Testament, cette loi, va aller. Et ce que Jésus fait dans le Sermon sur la montagne, c'est qu'il prend des distances par rapport aux scribes et aux pharisiens, qui citent bien sûr l'Ancien Testament, mais qui n'en prennent qu'une partie, souvent les parties qui les arrangent et qui laissent de côté certaines implications qu'on a dans l'Ancien Testament. Et Jésus va montrer toute la pertinence de cela. Quand il est dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point, vous avez entendu qu'il est dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, et quoi? Maintenant Jésus dit, non, c'est bon, c'est le passé, maintenant vous pouvez tuer qui vous voulez. Il dit non, mais vous devez aller plus loin que cela. Celui qui dit raca à son frère, imbécile, stupide, etc., a déjà transgressé le commandement de Dieu. La même chose au niveau de l'adultère. Ce n'est pas juste le fait de commettre adultère qui est contre la volonté de Dieu, mais déjà de convoiter dans son cœur la femme de son prochain. Donc Jésus va plus loin et montre toute la portée de l'Ancien Testament. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Mais je ne vais pas vous parler du sermon sur la montagne ce matin. Eh non. Alors, Matthieu, je vous ai dit, il est un organisateur. Donc, 3 chapitres sur l'enseignement de Jésus. Et après, vous avez 2 chapitres sur les miracles de Jésus. Alors, Matthieu a mentionné que Jésus avait fait des miracles à la fin du chapitre 4. Il est dit, Jésus a fait toutes sortes de miracles, de guérisons, etc. Mais il n'en décrit aucune, mais il raconte le sermon sur la montagne. 3 chapitres. Et ensuite, il passe aux miracles. 3 chapitres sur les miracles, ou 2 chapitres sur les miracles. Et puis ensuite, puisque l'évangile se répand, il y a des miracles, les gens viennent à Jésus, il va passer maintenant à la mission de Jésus, c'est le chapitre 10, des recommandations pour la mission. Puisque l'évangile se répand, eh bien oui, Jésus fait des miracles, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui annoncent cette bonne nouvelle. Donc, les disciples devront partir en mission. Et si vous voulez vous instruire sur l'évangélisation, la mission, je vous recommande de lire Matthieu chapitre 10. Parce que Jésus donne des instructions à ses disciples pour aller de maison en maison. Il dit, par exemple, quand vous allez dans une maison, donnez votre paix. Donnez votre paix. Et puis, restez là. Si les gens vous hébergent, restez là. Mais s'ils ne vous veulent pas, partez. Pas besoin d'insister. Pas besoin de mettre le pied dans la porte pour que les gens ne puissent pas vous rejeter. Allez vers ceux qui sont ouverts. Et c'est quand même un conseil précieux pour l'évangélisation, de se dire, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais on doit aller vers ceux qui n'ont peut-être pas entendu l'évangile, ou qui l'ont mal entendu, ou qui l'ont oublié, et pour venir pour annoncer l'évangile. Alors ça, c'est Matthieu. Alors, jusqu'à présent, tout semble bien. Jésus, il y a l'introduction, la naissance extraordinaire de Jésus. Ensuite, il y a le sermon sur la montagne. On est instruit sur la loi de Dieu en profondeur. Ensuite, il y a quelques miracles qui sont racontés, une dizaine qui sont racontés assez brièvement. Ensuite, on parle de la mission. On dit, bon, ben, les choses vont dans la bonne direction. Et tout à coup, au chapitre 11 et 12, on a le début des oppositions. Les oppositions deviennent de plus en plus fermes. On critique Jésus sur sa manière de vivre, sur le fait qu'il guérit le sabbat. Ils disent, mais tu transgresses le sabbat. Mais l'Ancien Testament dit jamais qu'on ne peut pas guérir quelqu'un le sabbat. Non, le sabbat, c'est justement le jour de la libération. C'est le jour idéal pour sauver quelqu'un. Donc, mais il y a une opposition de plus en plus forte contre Jésus. Matthieu, chapitre 11 et 12. Et puis, cette opposition, elle grandit jusqu'au moment où les pharisiens disent « Tu fais les miracles par la puissance du diable. » Alors ça, c'est quand même une objection extrêmement forte. C'est pas seulement, non, on pourrait expliquer les miracles autrement. Tu fais ces miracles, on peut pas les nier, mais tu les fais par la puissance du diable. Et Jésus dit à ce moment-là, il parle du péché contre le Saint-Esprit. Le péché qui ne pourra jamais être pardonné. Donc on voit l'opposition. Alors, c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit ? Ben, dans le contexte, c'est quelqu'un qui a entendu la parole du Christ dans toute sa clarté, qui a vu la puissance du Christ se manifester autour de lui, qui rejette le Christ, mais non seulement qui le rejette, mais qui l'accuse d'être l'envoyé de Satan. Un rejet complet de Christ. Et ce rejet, c'est le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné. Le salut, oui, il est ouvert à tous, on peut l'annoncer, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il y a des gens qui s'opposent et qui s'opposent de plus en plus et qui s'opposent jusqu'à la fin de leur vie au Christ. Donc ça, c'est les chapitres 11 et 12. Et ensuite, on arrive au chapitre 13. Et c'est le troisième discours. C'est le troisième discours. Et c'est un discours qui est fait de paraboles. On va s'arrêter un petit peu sur ce chapitre 13. Sur des paraboles. Ça s'appelle les paraboles du royaume des cieux. Et toutes les paraboles, sauf une, sont toujours préfacées par « Le royaume des cieux est semblable à ». Donc Jésus va nous dire en quoi consiste le royaume des cieux. Alors il dit bien « Le royaume des cieux », parce que les Juifs, ils attendaient un royaume terrestre. Mais Jésus dit « Le royaume que je suis venu établir, c'est un royaume plus général que simplement le royaume sur terre qui a pour capitale Jérusalem. C'est plus grand que ça, c'est le royaume des cieux. » Et Marc et Luc, qui parlent à des non-juifs, ils parlent du royaume de Dieu. Parce que les Romains, royaume de terrestre, ils ne connaissent pas un royaume messianique qui serait sur terre. Donc, le royaume que Dieu va établir, c'est le royaume de Dieu. Enfin, Matthieu nous parle du royaume des cieux. Et là, si je lis maintenant, chapitre 13, verset 1, « Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole et il disait, le semeur est sorti pour semer. » Alors, la parabole du semeur, vous la connaissez. Vous la connaissez, c'est un semeur qui sème des semences, certaines semences tombent sur le chemin, mais les oiseaux viennent et prennent ces semences, d'autres semences tombent dans des endroits pierreux, il n'y a pas de terre, elles poussent un tout petit peu, puis ensuite sont séchées par le soleil. Encore d'autres semences tombent parmi des ronces, elles poussent, mais ensuite sont étouffées par les ronces. Et quelques semences tombent dans de la bonne terre et produisent 30, 60, 100 graines différentes. Donc, il y aura un succès. Le royaume de Dieu est opposé, oui, parce que certaines graines disparaissent, certaines semences disparaissent, d'autres sont étouffées, d'autres ne poussent pas, mais certaines vont porter du fruit. Et c'est ça ce qui est réjouissant. Réjouissez-vous pour le fruit qui se produit parce que certaines terres sont ouvertes et acceptent la parole du Seigneur. Jésus raconte cette parabole. Il parle des semences. Il veut dire quoi, Jésus ? Oui, nous, on sait, parce qu'il y a l'explication qui vient après, mais si vous n'avez jamais entendu la parabole des semences, vous ne savez pas. Et les disciples viennent vers Jésus et ils disent au verset 10, « Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Hein? Parce que ça monte sur la montagne, non, c'était clair. C'était un message direct, c'était stimulant, difficile à vivre, mais enfin, c'était clair. Pourquoi en parabole ? Il n'y a pas d'explication. Pourquoi en parabole ? Et Jésus leur répondit, « parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et après, Matthieu cite le prophète Ésaïe, et il cite Ésaïe qui cite à peu près les mêmes paroles que Jésus vient de dire. Et au verset 16, il est dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Donc, Jésus dit, ce que je suis en train de vous dire concernant le royaume de Dieu, c'est des choses tellement précieuses que les prophètes dans l'Ancien Testament auraient voulu entendre. Vous êtes privilégiés parmi les privilégiés. Les richesses que je vous apporte sont encore beaucoup plus grandes que ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, oui, lisez-le, il est plein de richesses, mais les paroles que Jésus annonce, l'œuvre qu'il fait, sont encore beaucoup plus profonds. Alors maintenant, on va juste placer cette parabole ou cette situation dans son contexte. Jésus est au bord de la mer. Les foules qui viennent vers lui sont assez enthousiastes. Certains sont résistants, mais enfin quand même, ils suivent Jésus en dehors de la ville ou du village. Et puis, elles sont là. Donc, qu'est-ce que vous faites quand il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous et que vous voulez communiquer? Alors, Jésus, il va monter sur une barque et il va s'éloigner du rivage. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'éloigne du rivage? Deux explications possibles. Une des explications, c'est parce qu'il se dit, en m'éloignant du rivage, je serai plus visible par l'ensemble de la foule qui est là. C'est comme, vous avez un prédicateur, vous avez 1000 personnes qui sont là, il faut qu'il monte sur l'estrade pour qu'on puisse le voir. On va lui mettre un micro pour que les gens puissent entendre ses paroles. Alors, Jésus, il n'a pas de micro, il n'a pas une estrade, mais il s'est éloigné un tout petit peu du rivage. Et puis, le vent qui vient du lac va porter ses paroles jusqu'au rivage. Ça fonctionne, c'est une sorte de micro qui est là, qui permet que tout le monde puisse entendre ses paroles. Alors, Jésus veut que tout le monde entende, mais les explications ne seront pas données à tout le monde. Mais il faut que tout le monde entende quand même son message. Et puis peut-être que Jésus s'éloigne un tout petit peu pour montrer que maintenant, lui va prendre certaines distances par rapport aux foules, par rapport aux pharisiens et aux sadducéens en particulier, qui l'ont entendu, qui ont vu les miracles, qui l'ont rejeté. Ça ne sert à rien de continuer à dire les mêmes choses et à faire encore des miracles. Et souvent, les Juifs qui demandaient encore un miracle, un signe, non. Vous avez vu les choses, ça ne sert à rien que je vous donne encore un signe. Parce que de toute façon, vous ne voulez pas croire. Voilà. Je me souviens juste une fois d'un petit épisode, quand j'étais en formation en théologie, un des stages qu'on devait faire, c'était d'aller visiter des prisonniers. Et puis, c'était aux États-Unis. Et là, on avait une seule recommandation. Vous ne pouvez pas parler de la situation des prisonniers, mais vous pouvez parler de l'Évangile. Alors ça, c'est génial, hein, parce que vous n'avez pas besoin de parler du beau temps, de la famille, etc. Tout de suite, hop, vous parlez de l'Évangile. Et puis les prisonniers qui étaient là, souvent, ils n'avaient rien à faire, donc autant discuter, on avait des bons contacts au niveau du partage de l'Évangile. Et je me souviens qu'il y avait un homme, il était là pour discuter, argumenter, etc. Puis moi, j'étais un étudiant, donc je voulais défendre, je voulais prouver, etc. Enfin, voilà, une discussion. Puis au bout d'un moment, il disait, non, mais les miracles, etc. Puis on ne peut pas croire ça, Puis je lui ai dit, mais si Jésus faisait un miracle maintenant devant vous, est-ce que vous croiriez? Non. Bon, je lui ai dit, merci, au revoir, je suis allé vers le prochain. Je perdais ma salive. Lui ne perdait pas son temps, il avait une autre affaire. Ce qui montre que parfois, il y a un endurcissement qui est là. On ne veut quand même pas s'engager. Donc ne perdez pas votre temps avec ces gens. Allez vers les autres qui, eux, seront plus ouverts. Et c'est ce que Jésus fait aussi. Il va prendre ses distances et à partir de là, à partir du chapitre 14, 15 et suivant, Jésus va se concentrer sur l'enseignement de ses disciples. Parce que ses disciples doivent encore en connaître plus, en savoir plus. Parce que c'est eux qui vont ensuite propager l'évangile dans le monde entier. Donc, il est dit, et j'ai lu le verset 10, « Les disciples s'approchèrent de lui. » Alors moi, je vous pose la question, comment ? Jésus est dans une barque, il doit s'approcher de Jésus. Vous faites ça comment ? Vous êtes dans la barque, ce n'est pas des grandes barques, ce n'est pas un paquebot, c'est une petite barque. Il s'approche de lui. C'est tout simple. C'est que Jésus a commencé à donner la parabole du semeur et peut-être une ou deux autres paraboles depuis la barque, sans donner aucune explication. Et ensuite, il revient sur le rivage. Et c'est là où les disciples disent « Mais pourquoi tu parles en parabole ?» Tu t'es éloigné pour que tout le monde t'entende, mais pas d'explication. Mais les gens vont penser que c'est une leçon d'agriculture que tu leur donnes, avec ces semences qui tombent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi parler en parabole ? Et c'est là que Jésus dit, ce que je vais dire, ce qui est profond, ce qui est important, tout le monde ne va pas le comprendre. Et donc là, Jésus donne l'explication de la parabole des semences. Donc, il y a des graines, il y a des gens ouverts, des gens fermés, etc. C'est simple. Il n'a pas encore parlé du royaume des cieux. Il va parler du royaume des cieux, mais c'est la seule parabole ici qui n'est pas en rapport avec le royaume des cieux. C'est simplement une situation présente, des gens ouverts, des gens fermés, etc. Et après, la parabole suivante, qui est plus complexe, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrochez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà une autre parabole, sans explication. Elle veut dire quoi, cette parabole ? Est-ce qu'on est dans le domaine agricole ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un paysan, vous avez des graines, le blé qui pousse, il y a d'autres choses qui poussent aussi. Est-ce que vous devez intervenir ? Parce qu'il faut quand même que le blé pousse mieux. Et puis le maître de maison, non, il ne faut pas le faire maintenant, il faut le faire après. Est-ce qu'il y a une question de méthode agricole ? De quoi est-ce que Jésus parle ici ? Il ne dit rien, pas d'explication. Pas d'explication pour l'instant. Il va en donner, mais pas pour l'instant. Alors il continue avec une parabole beaucoup plus courte, au verset 31. Il leur propose une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde, la plus petite des graines. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette graine ? Elle va pousser et devenir une plante immense, tellement grande que les oiseaux viennent s'y loger. Le message est clair, on n'a pas besoin d'explication ici. C'est clair que le royaume de Dieu va triompher. Ça, c'est le message de toutes les paraboles du royaume des cieux. La victoire est au bout. Même s'il y a des échecs, même si à un moment donné, Jésus va mourir sur la croix, même s'il y a des persécutions, même s'il y a le rejet, le royaume de Dieu va triompher dans le monde. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que parfois, on peut se décourager, on se dit, mais les choses ne progressent pas. Vous avez une vieille église, elle se vide. Bon. Il y a beaucoup d'églises en France, en Suisse, dans le monde occidental, grands bâtiments, des pierres, des cathédrales, et puis il y a peu de personnes à l'intérieur. Il dit, mais autrefois, elles étaient pleines, et maintenant, elles sont vides. Ça ne progresse pas. Le christianisme n'est pas... les valeurs du christianisme ne sont pas défendues partout par les différents partis politiques, par la gauche, la droite, tout le monde. Non. Il ne faut surtout pas en parler. On se dit, mais il y a une déchristianisation qui fait souffrir, qui est triste. Bon, rassurez-vous, dans d'autres pays, l'évangile progresse. Mais il faut peut-être aller en Amérique latine, en Afrique, en Corée, en Chine, peut-être en Iran, aller ailleurs. Et là, d'un coup, alors qu'il y a difficulté, persécution, d'un coup, là, l'évangile progresse. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évangile va progresser. Jésus dit d'aller conquérir le monde. Donc oui, il aura le succès à la fin. Tout le monde ne sera pas sauvé, mais il y aura un succès à la fin. Alors, cette parabole, elle est facile, elle est courte, elle n'a pas besoin d'explication. En quelques versets, tout est dit. Et puis, si vous n'aviez pas compris ce message simple, bon, moi, je veux bien le répéter, c'est ce que Jésus fait. Il dit, mais le royaume des cieux, au verset 39, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc, encore une fois, quelque chose de tout petit. Cette fois, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur d'une maison. Quelque chose de tout petit qui va faire lever toute la pâte. Et c'est typique de l'enseignement hébraïque où souvent on répète les choses avec d'autres termes, d'autres images. C'est des parallélismes synonymiques. Et là, c'est deux images très courtes qui confirment à quelque part le message « Le royaume de Dieu va triompher ». Verset 30. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Donc, on n'est plus, Jésus n'est plus sur la barque, il n'est plus sur le rivage, il va entrer dans une maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera du même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Donc ce message-là, qui est maintenant cette parabole, qui est très expliquée, chaque élément est expliqué. Il y en a sept ici, sept qui sont expliqués, et chaque fois on nous dit ça, ça ressemble à ça, 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 ça. Et si vous n'aviez pas les explications, vous ne comprendrez rien. Mais quand vous les avez, vous comprenez tout. Donc, et ces explications, elles sont données dans la maison. Pas devant toutes les foules, mais dans la maison. À ceux qui l'ont accompagné, aux disciples, peut-être à quelques autres personnes qui étaient là, qui voulaient suivre Jésus. Et celui qui veut comprendre, je veux comprendre, Dieu lui donne encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et quand on vient à la foi, vous comprenez l'évangile. Moi, j'étais effaré parfois de voir que certaines personnes qui connaissaient presque rien de Dieu, au bout de deux semaines, trois semaines, deux mois, ils comprenaient l'essentiel. Mais ils avaient encore beaucoup à comprendre aussi. Et une fois que la semence est posée, une fois que la nouvelle naissance a lieu dans notre cœur, eh bien, il y a une possibilité de croître et de croître et de croître et de comprendre. Parce que Jésus veut qu'on puisse comprendre sa parole. Sa parole est parfois incompréhensible, mais Jésus veut qu'elle soit compréhensible. Quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, ça paraît parfois difficile, mais Dieu se révèle pour se faire connaître, pour se faire comprendre. Ce qui manque, c'est un cœur, une bonne terre, qui veut en connaître encore plus. Voilà. Quelle terre est-ce que vous êtes ? Est-ce que c'est un chemin où il y a peu de terre, et puis ça va pousser très vite et sécher. Est-ce qu'il y a des ronces, des soucis qui vont étouffer la parole? Ou est-ce que, au contraire, c'est la bonne terre? Question est posée à chacun de répondre. Après, c'est comme le médecin, des fois, on lui dit, il dit à son patient, est-ce que vous êtes en bonne santé? Bon, alors, faites des mouvements, faites-moi 10 pompes par terre, etc. Enfin, voilà, il va nous tester un tout petit peu pour voir si ça va bien. Bon, moi, je vais vous tester un tout petit peu pour voir si vous êtes en bonne santé. Voilà. Quand est-ce la dernière fois que vous avez lu un chapitre entier de la Bible? Ce matin? La semaine passée? Le mois passé? L'année passée? Je n'ai jamais lu un chapitre entier. Et c'est quoi? Et moi, je me rends compte qu'on parlait de diversité dans l'Église. C'est vrai, des églises différentes. Et la manière dont on loue Seigneur, parfois plus bruyante, plus calme, parfois plus méditative, voilà, elle varie. Mais les gens qui sont là, qu'est-ce qui caractérise ceux qui aiment le Seigneur? Ils aiment la parole. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur et ne pas aimer la parole. Celui qui aime la parole, il va la méditer, la lire, la relire, prier pour qu'il la comprenne. Peut-être qu'il va même s'inscrire dans un cours, par correspondance, dans un endroit particulier, dans une école biblique, que sais-je. Il en veut encore. Et il va croître. Parce que Jésus, il veut développer, il veut que ses disciples connaissent. Et c'est pour ça que dans ces paraboles, il y a cette caractéristique qui est en fonction du contexte. Jésus ne donne pas des sortes de fables, etc., de la souris qui parle au chat. Ce n'est pas ça. C'est du concret. C'est des choses de la vie de tous les jours. En tout cas, des choses connues. Et quand Jésus parle d'un trésor qu'on a trouvé dans un champ, c'est que dans ce contexte, dans cette région, près de Capernaum, c'est déjà arrivé. Alors pourquoi c'est déjà arrivé? Parce qu'à Capernaum, c'est un lieu de passage. Un lieu de passage qui relie le nord au sud, qui relie la Syrie, la Mésopotamie, jusqu'en Égypte, on passe très souvent par Capernaum. Et à Capernaum, Matthieu avait son bureau de péager pour taxer les gens qui passaient, etc. Mais les gens passaient, les armées passaient par là. Et parfois, il arrivait que les soldats, les armées qui venaient depuis le nord, avaient déjà assiégé différentes villes. Et un soldat, il avait trouvé, oh là, j'ai un beau manteau, ah, mais là, j'ai trouvé une épée en or, etc. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça avec vous. Oui, mais c'est difficile de porter ça avec vous quand vous devez encore aller vous battre en Égypte. Donc, il dit, mais je vais cacher ça à un endroit. Il trouve un endroit, un petit peu la terre, peut-être argileuse, ou qu'on peut travailler facilement. Hop, il creuse un trou, il regarde, personne ne me regarde, et puis hop, je mets ce trésor ici, je le recouvre, ni vu ni connu, je vais me battre en Égypte, et quand je reviens, je sors mon trésor et je rentre avec ça à la maison. Le problème, c'est que parfois, le soldat syrien ou assyrien, il mourrait en Égypte ou lors d'un autre combat. Donc le trésor, il restait là, il restait caché. Personne n'avait vu, ne savait, etc. Et pendant des décennies, des siècles, ce trésor était là. Maintenant, quand quelqu'un va labourer les champs, et là, on est probablement dans une période à l'automne, parce qu'on parle des semences qui sont jetées, qui vont pousser, etc. En automne, on va labourer les champs. Et quand vous labourez les champs, les paysans le savent très bien, de temps en temps, il y a un gros, quelque chose de grand. Et regarde, oh oui, il y a un bloc de pierre qui est là. Ils sortent le bloc de pierre, comme ça, progressivement, leur champ, il est mieux. On ne trouve pas les trésors. Mais il arrive dans cette région que d'un coup, quelqu'un trouve un trésor. Et donc, ce trésor, l'homme dit, ben, il n'est pas à moi, ce n'est pas mon champ, mais je vais tout faire pour acquérir ce champ. Vous dites, mais ce n'est pas un petit peu malhonnête, là, sur les bords, parce que le propriétaire, il ne savait pas. Oui, mais le propriétaire ne savait pas, c'était son problème. Ce trésor qui était mis là, ce n'était pas le trésor de ses ancêtres. C'était un étranger, un envahisseur qui avait mis ça. Donc, il achète ce champ pour avoir le trésor. Voilà la parabole du royaume des cieux. Donc, quand vous trouvez, par hasard, un trésor extraordinaire, c'est-à-dire l'Évangile, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour l'acquérir. Votre vie va changer, vous êtes prêt à laisser d'autres champs, d'autres maisons, je ne sais pas, d'autres biens, parce que vous voulez vraiment maintenant mettre ce trésor à profit. Et comme précédemment, cette parabole est suivie par une autre parabole qui raconte la même chose, mais en d'autres termes. Au verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. » Donc là, à nouveau, même situation, quelqu'un trouve une perle de grand prix et les perles pouvaient avoir énormément de valeur, plus qu'un diamant. Quand elles sont grandes, quand elles sont pures, elles valaient beaucoup. Donc, des fois, on regarde sur le marché les perles, etc. « Ouh, là, il y en a une !» Bon, elle est un petit peu chère, 500 euros. « Non, mais c'est rien, moi, je vais l'acheter. Ah, mais elle coûte 5000 euros, mais c'est rien. Elle est tellement belle, je veux l'avoir. » Et on est prêt à tout investir. Donc, la même leçon, quand on trouve l'Évangile, d'un coup, il devient vraiment précieux. Et c'est intéressant parce qu'entre celui qui trouve le trésor et celui qui trouve la perle, on a quand même deux situations qui sont très différentes. Parce que celui qui trouve le trésor, il le trouve par hasard. Bah, cherchez pas, il le trouve. Celui qui trouve la perle, c'est celui qui a cherché. Et enfin, il trouve ceci. Et cela montre la diversité de notre vie, de notre expérience, de notre vie. Voilà. Certains sont nés dans une famille chrétienne, ils ont baigné là-dedans depuis tout petit. Ils entendaient les chants, les parents qui priaient, l'école du dimanche, etc. etc. Voilà. Ils ne cherchaient pas vraiment, mais enfin, on leur a annoncé l'Évangile. Et puis d'autres, comme c'était imperméable pendant longtemps, tout à coup, ils trouvent le trésor. Et ça change tout. Alors Matthieu, il a parlé Claire ont parlé de leur témoignage. Mon témoignage est tout à fait différent. Je viens d'une famille pas du tout engagée dans la foi. Mes parents allaient à l'église quand il y avait un mariage, pour un baptême. Voilà. On n'allait pas à l'église, on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. Et à 22 ans, je voulais faire du ski. Alors, à l'université, il y avait une petite affiche. Camp de ski. En bas, tampon groupe biblique universitaire. Il disait, dans le programme, le soir, il y aura quelques études bibliques. Et je me suis dit, mais tant pis pour les études bibliques, ça ne me fera pas de mal. Moi, je veux faire du ski. Ce sera l'occasion de rencontrer des filles aussi. Voilà, donc, je me suis inscrit à ce camp. Et comme par hasard, mais je vois après coup, comme par hasard, il y avait encore de la place. Le camp était plein, mais il y avait encore de la place. Parce que le responsable a dit, on ne peut pas refuser du monde. Donc, on prend tout le monde. Et ma foi, tant pis, le chalet est trop petit, mais les garçons, ils auront logé à la salle de gymnastique du village. Voilà. Donc, ils voulaient vraiment accueillir. Donc, voilà, une place était ouverte pour moi. Je vais dans ce camp. Le soir, premier soir, qu'est-ce que je vois? Une jolie fille. Et donc, je discute avec elle. Et très rapidement, elle me dit deux choses. Elle me dit, elle est fiancée. Je me dis, zut, faut la chercher ailleurs. Et elle est chrétienne. Elle a témoigné de sa foi, une foi sainte, mais elle témoignait. Sa foi en Dieu, sa foi en Jésus. J'avais jamais entendu quelqu'un qui témoignait de sa foi comme elle a témoigné. Je me dis, c'est extraordinaire. Elle a quelque chose que je ne sais pas. Mais elle peut croire, moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas faire un effort pour ça, je ne peux pas croire. J'étais jaloux. J'étais jaloux qu'elle croyait que moi, je ne croyais pas. J'avais des questions aussi. des questions sur l'existence de Dieu, sur les autres religions, sur le problème du mal, etc. Je commence à lui poser ces questions. Alors, elle se sent très vite débordée. Elle appelle l'orateur du camp qui vient, qui patiemment explique, donne une réponse à toutes mes questions. Je ne me souviens d'aucune réponse, mais je me souviens que ses réponses étaient bonnes. Voilà. Donc, il me dit, ah ouais, c'est vrai, il y a une réponse. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, etc. Et ce soir-là, premier soir, il y avait 50 personnes dans le camp. Je ne connaissais personne avant. Je monte dans le dortoir et je prie. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas si tu existes ou si tu n'existes pas. Mais si tu existes, donne-moi la foi et je te suivrai toute ma vie. Premier soir, je me suis dit, mais si Dieu n'existe pas, il ne faut pas croire. Mais s'il existe, mais c'est stupide de ne pas croire en lui, de ne pas le servir. Ça me paraissait tellement simple. Bon, avec du recul, je vois que c'est le Saint-Esprit qui m'a montré cette évidence. Et donc, voilà, j'ai fait cette prière. Rien ne s'est passé sur le moment. Mais 3 jours plus tard, le 31 décembre à minuit, alors que je pensais qu'on irait danser 31 décembre à minuit, on est allé à l'église le 31 décembre. Et en sortant de l'église, j'ai regardé le ciel étoilé et je croyais. Et j'étais un homme transformé. Pour la première fois, j'étais capable d'aimer les autres. Ma vie avait un sens. J'avais énormément de questions. Mais je croyais, j'étais sûr. Je ne pouvais pas expliquer, mais je croyais. Et donc, quand je suis rentré à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pris une Bible qu'on m'avait donnée 6 ans avant pour le monde du catéchisme, et j'ai commencé à lire. Lire où? Mais ben, au début, Genèse 1-1, Dieu, on lit. Tous les soirs, au lieu de regarder la télévision, j'allais dans ma chambre, je lisais cette Bible, je la mettais au fond de mon tiroir pour que mes parents, ma mère ne puissent pas voir que je lisais une Bible. Mais j'avais une soif de connaître le Dieu qui s'était révélé à moi. Et ensuite, j'ai profité, il y avait une étude biblique à l'université. Allez, j'y allais. Le mercredi à midi, c'est bon. Ah, il y en a une autre le vendredi soir. J'y allais le vendredi soir. Toutes les écoles, les études bibliques étaient là. J'y allais. Je voulais grandir dans la foi. Et j'ai grandi dans la foi. Et ça a continué. Après, j'ai fait des camps de formation. J'ai fait une formation en théologie. Après, j'ai enseigné dans une école biblique. Ben voilà, j'ai plus lâché le morceau. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait se dire, oui, après un certain temps, la Bible, bon, on l'a lu, hein, on a lu ce texte plusieurs fois, bon, c'est bon, il faut passer à autre chose. Peut-être, un roman policier ou autre chose, enfin, il faut avancer. Mais la Bible, quand on la lit, et on la lit encore, on trouve encore et encore et encore des trésors. Le matin, je me lève, je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Et toutes les semaines, je trouve encore des trésors. D'ailleurs, ma femme, au petit déjeuner, tu as lu ce texte, etc. Puis je lui donne une explication. Elle a une prédication, une étude biblique en privé, au petit déjeuner, parce qu'il y a encore des choses à partager. Et en fait, quand je partage, donc après, elle me dit, ah, mais t'avais pas fait attention à ça. Donc, on s'enrichit les uns les autres en étudiant la parole du Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais terminer. Qu'est-ce qui se passe après ce troisième discours? Parce que Matthieu en rapporte 5, non, on va s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui se passe après ce troisième discours en parabole? Jésus va se concentrer sur l'enseignement des disciples. Il va faire des miracles, mais qui sont plus particuliers, plus difficiles à comprendre, qu'on ne comprend peut-être pas tout de suite. Parce que souvent, ces miracles sont porteurs de sens, sont symboliques. Par exemple, à un moment donné, Jésus va traverser le lac de Galilée en marchant sur l'eau. On dit, mais pourquoi? Pourquoi marcher sur l'eau? Ouais, le vent était contraire, mais enfin, ils n'étaient pas en train de couler. Pourquoi marcher sur l'eau? Il suffisait de prendre une autre barque pour rejoindre ses disciples, ou peut-être faire le tour du lac à pied. Pourquoi marcher sur l'eau? C'est pas évident, mais c'est un miracle énorme que seuls les disciples ont vu qui étaient dans la barque. Donc, Jésus, à un moment donné, fait des miracles prodigieux pour enseigner ses disciples sur la suite, par des images. Il y a sur le mont de la transfiguration, Jésus est transfiguré, il leur donne une vision du royaume à venir, etc. Et puis, à un moment donné, Jésus dit, écoutez, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais il y a une chose que je n'ai pas encore parlé, mais qui je dois vous en parler maintenant, c'est que je dois aller à Jérusalem, être jugé, crucifié, mourir et ressusciter 3 jours après. Et ça, c'est le message le plus difficile à comprendre pour les disciples, qu'ils ont compris finalement qu'après la résurrection, que Jésus a dû mourir sur la croix. Mais là, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu doit venir mourir sur la croix? Peut-être que vous avez encore cette question. Mais plus on progresse quand même dans la foi, plus on se rend compte de l'importance de cette chose-là. L'homme, il est pécheur. Tout homme est pécheur. Et le péché doit être sanctionné par la mort. Et donc, celui qui croit en Jésus, que Jésus est mort sur la croix, celui-ci, il a la vie éternelle. Enfin bref, voilà, je m'arrête ici quand même parce que c'est la fin de la prédication. Mais ce que j'avais à cœur ce matin, c'était de montrer que pour les Juifs et pour les chrétiens juifs, le fait que le peuple rejette Jésus, c'était une difficulté. C'était une difficulté. Mais Jésus prend du temps avec ses disciples pour les enseigner et les instruire. Que Dieu nous aide à renouveler notre soif de sa parole, notre soif de le servir. Amen.